Vous écoutez RTL.
Merci. Alors si je vous parle d'une moustache belge, d'un impeccable costume, d'une vieille dame avec une grande mémoire, vous me répondez évidemment Agatha Christie.
Ah oui.
C'était une globe-trotteuse infatigable, ce qui rend chacun de ses enquêtes si réaliste. On vous emmène sur les traces de la reine du polar vers 14h30 sur la première radio de France.
Et tout de suite sur RTL, l'art de la rue.
It's time to start.
Le street art, c'est maintenant. On le fait, on va le coller, c'est du culot.
Anaïs Bouton.
Prendre des risques, c'est bien, mais c'est une vraie drogue.
Thomas Hugues.
On a beaucoup de connaissances, des grands graffeurs, hein, au demeurant, qui se prennent tellement d'amendes que c'est des gens dont la vie sociale est ruinée.
La curiosité est un vilain défaut. Ready, go.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La Curiosité. On est ensemble jusqu'à 15h pour se cultiver dans la bonne humeur avec Anaïs Bouton. Bonjour Anaïs.
Ah, bonjour Thomas, salut les curieux. Cette semaine, on a déjà visité le Paris érotique, découvert le destin de Freddie Mercury, le chanteur de Queen, ou révélé les secrets de Mimi Marchand, la très discrète conseillère en communication du couple Macron. Et aujourd'hui, on découvre les stars du street art.
Bonjour Nicolas Logéro-Lasserre.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue, vous êtes collectionneur, directeur d'une école de management de la culture et du marché de l'art. Alors c'est le coup d'éclat de Banksy qui nous a donné envie de vous inviter. 6 octobre dernier, une vente aux enchères chez Sotheby's. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé, mais peut-être, il y a sans doute pas mal de nos auditeurs qui ne savent pas qui est Banksy. On dit que c'est une star du street art, mais on ne sait pas qui c'est ça?
Oui, c'est la particularité de beaucoup d'artistes dans le mouvement. Ils sont anonymes. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont souvent démarré par une démarche vandale. C'est-à-dire qu'ils ont peint des murs sans autorisation, ce qui est répréhensible à peu près dans le monde entier.
Ouais.
Et c'est pour cette raison que très souvent, ils étaient anonymes.
Qu'est-ce qu'on sait de lui, de Banksy ?
On sait quand même beaucoup de choses. On sait qu'il a vraisemblablement mon âge, c'est-à-dire environ...
C'est vous peut-être.
Environ 43 ans.
D'accord.
Et il est né à Bristol. On sait que c'est un graffeur au départ, donc il démarre par la pratique du graffiti, de la lettre, en posant son blaze sur les murs.
Oui.
On sait également que c'est un anarchiste. Et ça... Vous le verrez, ça va nous éclairer pour regarder un peu ses performances.
Bah oui, justement. Alors Thomas en parlait. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre dernier lors de la vente aux enchères là chez Sotheby's?
Alors imaginez juste un instant, parce qu'on n'a pas forcément tous été dans une vente aux enchères, mais imaginez la vente aux enchères du vendredi soir chez Sotheby's. Imaginez une salle pleine, des centaines de gens, des gens plutôt riches, assez fortunés, des dizaines de téléphones qui s'alignent avec des enchérisseurs au téléphone. Enfin, vous voyez, l'ambiance est posée. Et puis,
il y a un tableau au mur.
Voilà, il y en a même beaucoup, mais il y a dans cette vente un Banksy.
Une
des œuvres iconiques de Banksy, une petite fille au ballon, ce fameux ballon rouge, on a tous un peu peut-être en tête, on a croisé
cette
image.
On va la mettre sur les réseaux. Ouais,
formidable. Ouais. Et donc, l'œuvre clôture la vente, c'est la dernière œuvre de cette vente. La salle est très excitée, la vente se passe extrêmement bien. 500 000, 800 000, 1 million, 1 million 2 d'euros. Le commissaire-priseur tape le marteau. Oui, c'est complètement fou d'un artiste dont on vient de dire que c'était un artiste, un graffeur, un artiste vandale au départ, et un anarchiste.
Mmh.
Et
un
donc, l'œuvre est adjugée, une des œuvres iconiques de sa carrière. Et à ce moment-là, une espèce d'alarme hallucinante retentit. Bip, 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 bip. Toute la salle regarde l'œuvre. Et là, sous le regard ébahi de tout le monde, l'œuvre est en train de se détruire comme un déchiqueteur, si vous voulez, les déchiqueteurs qu'on a dans les bureaux, vous savez, qui détruisent les papiers. Bien, l'œuvre descend et se détruit. L'œuvre à 1 million d'euros se détruit sous les yeux ébahis de la salle.
Et là, les conjectures commencent. On comprend que Banksy a voulu envoyer un message. Lequel ?
Voilà, bien. On comprend très vite qu'il s'agit en fait d'une performance, mais une performance qui, dans les heures qui suivent, va devenir mondiale. Des millions de vues pour cette vidéo qui va être postée par l'artiste lui-même, qui va venir signer en fait la performance. Et pour info, pour juste l'anecdote, Banksy, il y a 2 semaines de ça, avait 2 millions de personnes sur Instagram, ce qui est déjà considérable. Et à la seconde où je vous parle, il en a quasiment 5 millions. Donc vous voyez à quel point...
Il a pris 3 millions de followers en 15
mais
jours.
Alors, il cherchait quoi? Un coup de pub?
Alors, c'est là que ça devient intéressant et que tous les avis sont permis. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça m'intéresse de placer cette performance dans le regard de ses 15 ans de carrière, de voir comment, très régulièrement, il a attaqué le marché de l'art. Il y a eu tout un tas de séquences et de performances qui ont montré qu'il était un détracteur du marché de l'art, qui passait le marché de l'art au vitriol. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, ce marché, c'est un marché de dupes. Votre marché, il est truqué, il est spéculé. Il suffit d'être deux, de se mettre d'accord et on peut monter la cote d'un artiste. La preuve, je vais le faire. Et c'est ce qu'il a fait.
Parce que l'œuvre en question détruite, elle a pris encore plus de valeur, c'est ça ?
Oui, alors, il nous a montré plusieurs fois comment le marché pouvait être manipulé. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire deux mots d'une performance qu'il a réalisée il y a 3 ans, qui a fait aussi le tour de la toile et dont beaucoup de gens qui s'intéressent à l'art urbain ont entendu parler. Il a placé un vieux monsieur, une échoppe, à Central Park. Devant Central Park, il y avait une vingtaine d'œuvres de Banksy, des vrais originaux.
Oui.
Et puis ce vieux monsieur, un peu comme nos bouquinistes à Paris, a vendu des vrais originaux qui coûtaient à l'époque 100 000, 200 000, 300 000 euros. Était vendu $60.
Ah, comme si c'était les messieurs qu'on croise parfois dans la rue
comme
qui vendent leurs tableaux.
Comme une reproduction à 20-30 euros, c'était des vrais originaux. C'était des originaux. Et à la fin de la journée, combien en a-t-il vendu à votre avis ? Bien, difficilement 4.
Ah.
Une maman qui en a acheté 2 pour ses enfants.
En négociant le prix.
Elle a été contente, oui, en négociant. Et puis un monsieur qui en a acheté un autre. Et le soir, la vidéo est sortie. Le monde entier a été ébahi. C'était des vrais originaux. Et Banksy, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, qu'est-ce que vous achetez ? Est-ce que vous achetez la valeur ou est-ce que vous achetez l'œuvre d'art ?
Eh bien voilà, on a compris qui était Banksy. C'est certainement aujourd'hui la superstar du marché du street art, cet art urbain. Mais il vient d'où cet art ? Il vient de New York, années 70. On vous y embarque dans un court instant. Restez avec nous les curieux.
RTL. Depuis 20 ans, Banksy est le Britannique le plus touche-à-tout, le plus célèbre mais aussi le plus mystérieux de la planète graffiti.
La curiosité est un vilain défaut.
Banksy, figure incontournable du street art.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
De retour dans votre curiosité sur la première radio de France avec vous, Nicolas Logerot-Lasserre. On fait un tour du street art. Alors, quand ça a été créé, le street art, et où ça ? Le vrai démarrage, c'est où ?
Alors, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que dans ce probablement grand mouvement artistique et l'art urbain, c'est un peu le terme un peu englobant l'ensemble, il y a certainement deux courants. Le graffiti et le street art. Et donc, le graffiti démarre dans le New York des années 70, dans ce New York underground. On a en toile de fond Andy Warhol avec la Factory. On a des quartiers à New York, on a Brooklyn, on a le Bronx, et on a des jeunes gens, on a la naissance d'une culture avec des gens originaires de différents continents dans ce New York. Des jeunes gens qui commencent à avoir une pratique étrange. Ils écrivent sur les murs leur surnom.
Le premier qui l'a fait, on sait qui c'est ?
Oui. Alors, on parle pour l'anecdote d'un certain Taki, un Taki 183. Et ce Taki, c'était un coursier dans ce New York des années 70, un simple coursier à vélo, comme il en existe encore aujourd'hui dans les villes. Et chaque fois qu'il livrait un pli, il inscrivait son surnom, Taki, et le nom de sa rue, 183. En quelques années, ce pseudonyme, cette inscription sur les murs se répand dans toute la ville.
Et il est copié, d'autres font
et
la même chose,
c'est ça ? Il est copié, et donc il y a un article assez fameux de 1973 dans le New York Times qui raconte cette histoire et qui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique-là d'écrire son nom et qu'est-ce que c'est que ce coursier qui fait ça ? Et voilà, c'est parti, et c'est ce qu'on appelle le tag. Et 40-50 ans après, on a encore nos espaces urbains envahis de tags.
Donc ça, c'est le premier courant. Le second, c'est quoi ?
Alors, après l'émergence de ce graffiti dans les années 70, qui va très vite aussi rentrer en galerie, travail de rue, travail d'atelier, les deux vont s'alterner. Grosse répression à New York par le maire de New York, et donc un certain nombre d'entre eux vont s'exporter en France, et on a l'arrivée du graffiti en France dans les années 80.
Avec là plutôt des gens qui ont fait les beaux-arts, qui sont comme
à ce moment-là, dans ce début des années 80, en particulier 84-85, des artistes, alors là je tourne la page des graffeurs, on les laisse de côté, des artistes formés académiquement, qui ont fait des écoles d'art, les Beaux-Arts de Paris, des écoles supérieures d'art plastique, se mettent à choisir la rue comme support. Ils sortent des ateliers et leurs univers, ils viennent le poser dans la rue. Alors pourquoi là aussi ? Certains racontent, je pense à Speedy Graffito, il dit « J'avais du mal à rentrer dans une galerie, c'est dur pour un artiste de faire partie de l'écurie d'une galerie. Et donc, j'ai peint tous les murs autour de la galerie, je suis devenu l'artiste numéro un de la galerie. » Voilà, c'est assez drôle et assez fascinant.
Et là, c'est des dessins qu'ils font, c'est pas seulement une signature, c'est
exactement,
ça,
hein, c'est ce qui distingue du courant du graffiti dont je vous ai parlé, qui est davantage un courant vandale au départ. C'est effectivement des univers figuratifs.
Comment sont-ils perçus ? Ils sont perçus comme des vandales, comme des...
Alors, c'est vrai que le graffiti, la lettre, est un peu moins toléré.
Bah oui.
C'est l'injustice du graffiti que les jolis dessins.
Bah oui, moi, un dessin, à la rigueur, je peux trouver ça sympa. Ça peut même embellir un vieux mur, mais un graffiti quand on voit ça sur les rames de métro ou etc. Pardon, hein, je vais donner mon avis, mais je trouve ça moche, quoi. Et je trouve que ça. Non, mais vraiment, quoi.
Oui, je
trouve que ça dégueulasse nos villes, quoi.
Et effectivement, quand on n'a pas les codes de ce mouvement, oui. on peut le percevoir comme ça. Et c'est vrai que de jolis pochoirs vont avoir des durées de vie très longues, alors que le graffiti va être très vite repassé et nettoyé par les oui. services municipaux. En fait, ces deux courants sont tellement distincts. Le graffiti, c'est pas fait pour plaire. Ce sont pas des artistes. Mmh. Il y a une démarche artistique, on peut le voir, mais on a des gens qui ont des codes différents, qui sont pas là pour faire plaisir ou faire joli.
Alors, le street art, c'est un marché mondial en plein boom, et Paris est la capitale de ce marché. Démonstration dans un instant sur RTL.
Bon après-midi sur RTL.
C'est pour faire 10 pièces pour une galerie et au final, créer juste pour créer, ça m'intéresse pas.
RTL.
On travaille avec des produits chimiques, on fait un maximum de choses pour faire en sorte d'être le moins polluant possible.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais on essaye aussi d'être le moins polluant possible pour l'environnement urbain.
Et toujours avec nous Nicolas Logéro-Lasserre, collectionneur d'art, qui nous fait découvrir l'histoire du street art, l'art de la rue, l'art dans la rue, l'art urbain. On peut lui trouver plusieurs traductions françaises. Donc aujourd'hui, Nicolas Logéro-Lasserre, on est loin des premiers graffitis des années 70, des taggers, des graffeurs qui ont été pourchassés par les flics à New York et puis ensuite à Paris. Le street art, c'est devenu un marché à part entière, un marché mondial. Ça veut dire que ça existe partout ?
Oui, c'est ça qui est assez fascinant. Je crois intimement que c'est un mouvement qui vient réconcilier l'art avec les gens. Vous voyez, on est parfois parti très loin dans l'art, depuis Marcel Duchamp, depuis le début du XXe siècle, l'art conceptuel, depuis la FIAC, qui a eu lieu la semaine dernière.
Oui, où là, on a un peu l'impression que c'est pour une élite qui parle à elle-même.
Oui, c'est un peu cliché,
quoi, c'est
mais effectivement, ouais. des œuvres à plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est pas accessible à tous. Mmh. Et faire 3 ans d'études d'histoire de l'art pour comprendre une œuvre, c'est pas accessible à tous. Et ce mouvement est venu réconcilier. Il est gratuit, sur les murs, à la portée de tous. Et effectivement, c'est probablement le premier mouvement mondial dans l'histoire de l'art. Les mouvements précédents, les impressionnistes, le pop art.
Mais ça veut dire qu'il y a une star du street art dans chaque pays.
Exactement, c'est ouais. exactement ça. Et en France, si on devait en citer que quelques-uns, on pourrait citer Invader, qui a fait s'évader les personnages de son jeu vidéo Space Invader des années 80, le jeu Atari.
Racontons ça, alors c'est quoi l'histoire d'Invader ?
Invader, c'est génial, il est diplômé des Beaux-Arts de Paris, de la fameuse école, et il décide, il y a une grosse quinzaine d'années, presque 20 ans, de poser ces Invaders dans la rue. Donc ce sont des mosaïques, je pense que tout le monde, ouais, là, quand je raconte ouais. ça, a en tête une petite image. Et il en a posé simplement des milliers dans le monde entier. Il envahit des villes. À Paris, il y en a 1500. Il y en a à Londres, à New York et dans beaucoup de villes de région.
On les nettoie ou pas, les mairies ?
Alors certains les piquent, les mairies, il a l'avantage de les poser au ciment. Ce sont des carreaux de mosaïque qui oui. représentent ces personnages, Invader, Space Invader. Donc les mairies n'arrivent pas à les enlever.
Et puis alors il va même dans l'espace, c'est ça ?
C'est ça qui est génial,
là,
c'est qu'il
pas
en
les
a
enlever.
Envoyé une dans les fonds sous-marins, il en a envoyé une dans une station spatiale. Donc
attendez,
le mec
attendez,
est parti très loin.
Il y a une œuvre d'Invader dans la station spatiale internationale, c'est ça ?
Exactement, on peut voir, vérifier ça sur internet, c'est assez amusant. Mmh. Voilà, le type est complètement fou et fascinant. Et ce qui est génial, c'est que les enfants adorent son travail. Donc, ils observent ces carreaux de mosaïque, ces petits personnages un peu partout à chaque coin de rue.
Donc là, on a cité un des Français. On parlera peut-être de JR tout à l'heure, qui est une autre star de ce marché de l'art français. Mais Anaïs disait tout à l'heure, la France pèse lourd dans le marché mondial du street art.
Oui.
On est vraiment la capitale mondiale
Oui, j'ai envie de vous dire alléluia, vous voyez, parce qu'on est souvent ramené dans le marché de l'art plus classique, contemporain. On dit souvent qu'on est à la 10e place, 20e place, qu'on perd notre crédit. Ben là, la France, Paris, est vraiment numéro un mondial. C'est là qu'on a le marché le plus considérable.
Ça veut dire quoi ?
Et l'engouement aussi, hein, parce que le marché est venu avec l'engouement. Évidemment.
Ça veut dire quoi ? Des galeries
Savez-vous combien il y a de galeries à Paris spécialisées dans l'art urbain ? Il y en a une soixantaine aujourd'hui. Enfin, c'est
ouais,
vraiment
c'est
considérable. C'est vraiment considérable. Et une quinzaine de maisons de vente aux enchères, chaque année qui proposent. Alors, vous devriez me dire, mais qu'est-ce qu'on achète ? Les murs ?
Ben oui.
mais non.
Il crée aussi en atelier alors.
Oui, exactement. L'essence de ce street art, c'est dans la rue, c'est sur les murs, mais on ne découpe pas les murs pour les vendre. Simplement, les artistes ont un travail d'atelier, ils ont une pratique en parallèle et ils créent des œuvres en atelier qui sont vendues en galerie, ce qui leur permet de financer la poursuite de leurs murs gratuits dans la rue.
Et puis les artistes du street art sont souvent engagés. Vous allez nous présenter JR dans quelques instants.
Mais
Thomas.
Oui.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Et on vous fait découvrir le street art, le marché du street art avec Nicolas Logéro-Lasserre qui est collectionneur d'art urbain, ce qui nous a donné entre autres envie de vous inviter, à part l'histoire de Banksy qu'on racontait tout à l'heure, c'est cette exposition consacrée à Basquiat, à la fondation Louis Vuitton à Paris. Basquiat qui a commencé par le street art et qui en est sorti, c'est ça, en quelques mots.
Oui, c'est ça, Basquiat qui est mort très jeune, à 27 ans, mais qui, quelques années avant de mourir, a eu un succès phénoménal et en particulier grâce à Andy Warhol. C'était vraiment une figure tutélaire pour Basquiat et ils se sont beaucoup nourris l'un l'autre. Effectivement, Basquiat a démarré dans la rue et est devenu un artiste ensuite mondialement connu et aujourd'hui extrêmement coté.
Et on voulait parler de JR aussi, qui est un Français. Alors lui, vous dites qu'il est très engagé.
Oui, JR est particulièrement engagé et on a été très marqué par certains projets de JR et en particulier celui autour des favelas, par exemple, il y a quelques années de cela. Il travaille pendant plusieurs mois dans les favelas. Il prend les gens en photo et puis de façon participative avec les habitants de ces favelas, il colle les photos en géant, les photos tirées, développées sur papier, sont collées sur leurs habitations et donc on a d'un coup une vision de ces favelas féerique, enfin poétique et c'est une autre image, il renverse l'image, les clichés qu'il pouvait y avoir sur ces favelas et là le monde entier d'un coup le regarde différemment. Voilà, c'est un artiste qui a démarré son travail très jeune et qui est venu éclairer des phénomènes sociaux. Je pense à un travail à Shanghai en particulier où le gouvernement expulsait des personnes âgées des centres-villes et lui il est venu les prendre en photo, coller leurs photos en géant et quand toutes les photos ont été collées, le communiqué est tombé et oui, c'était des gens expulsés des centres-villes, vous voyez, sans indemnité, etc. Voilà, il y a une démarche assez sociale.
Merci beaucoup Nicolas Logéro-Lasserre. Vous allez créer un espace à Paris au mois de mai, c'est ça? On en dit un mot en 20 secondes, ça s'appelle Fluctuart. Ce sera où et ce sera quoi?
Oui, exactement. Fluctuart, ça va être un centre d'art urbain, un lieu dédié à l'art urbain. Ce sera Pont des Invalides à Paris, dans le 7e, à côté du Rosa Bonheur, du Flo, dans un endroit qu'on connaît bien. Et ce seront mes étudiants de l'ICAR qui viendront animer aussi la médiation, qui viendront partager leur passion autour des artistes.
Ils sont aussi passionnés que vous, on va se régaler.
Bon, j'espère.
Bah, écoutez, on suivra ça à partir du mois de mai et je voulais en parler parce que c'est quand même intéressant de voir que le street art qui est passé d'abord par le vandalisme, les délinquants pourchassés par les mairies du monde entier et notamment à Paris, ben, ils auront au mois de mai un espace qui leur sera dédié. Merci
à vous, merci
et à bientôt.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.